Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Lorsque la vie vient nous challenger pour nous pousser à aller chercher notre mission de vie, justement, eh bien c'est ce qui est arrivé à ma femme d'aujourd'hui. On y va pour les détails.
Médien. Yasmine. Femme d'aujourd'hui.
Salma Al-Harichi, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va Lala Salma?
Ça va très très bien, alhamdoulilah, merci.
Alors Salma Al-Harichi, vous êtes consultante, experte en transformation digitale et leadership, conseillère en employabilité, entrepreneuriat, conférencière, formatrice, coach et exécutive, executive coach. Alors, d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser autant aux dynamiques humaines qui contribuent au bien-être au travail?
Alors, c'est une très bonne question. Je pense que c'est une vocation qui a commencé depuis l'enfance et que les choses de la vie ont fait que j'ai évolué différemment. Mais à un moment donné, il y a eu quelque chose en moi qui m'a dit que je devais me reconnecter à cette mission de vie, si on peut dire ça comme ça.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, ça reste très général. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que quand j'ai eu 25 ans, 26 ans, que tout se passait bien, donc j'ai fait tout ce qu'il fallait comme il fallait, les bonnes études, le bon boulot, j'étais en France à l'époque. Et à un moment donné, j'avais commencé à sentir que j'avais des petits troubles digestifs. Personne n'avait de réponse. Et j'ai décidé d'aller un peu plus loin, parce que je suis quelqu'un qui est assez curieux. Et je vais chercher un peu plus loin qu'est-ce qui ne va pas. Et j'ai trouvé que j'avais rien en fait. J'ai vu un nutritionniste qui n'a pas trouvé de réponse. Et petit à petit, j'ai découvert le coaching.
Alors donc en fait, juste pour y aller petit à petit, donc rien d'organique?
Oui. Non, rien, vraiment, juste des petites gènes au niveau digestif,
okay,
qui étaient expliquées par le stress. Donc on me disait, oui, mais c'est rien, c'est le stress, ça va aller. On a fait toutes les analyses, il n'y avait rien du tout.
Okay.
Et comme je voulais absolument avoir une réponse, j'ai continué à creuser. Mais sans trop m'y attarder.
Mais alors pourquoi, Salma, mais pourquoi vous vouliez une réponse puisque les médecins vous avaient donné une réponse déjà?
Ah, ça c'est peut-être mon côté entêté, mon
non,
côté capricorne.
Non, parce qu'en fait, on sait que certains l'appellent le deuxième cerveau, certains l'appellent le premier cerveau, sont les intestins justement. Et si on dit que les troubles digestifs que vous aviez sont impactés par le stress, ça fait sens, en fait. C'est une explication normale. Qu'est-ce qui vous manquait?
Il me manquait des solutions, parce qu'on ne me donnait pas de solutions.
La solution, c'est de ne pas stresser, en fait.
Voilà. Alors, comment ne pas stresser?
Ouais, exactement. C'est ça. Surtout quand on dit « c'est rien, c'est le stress ». Non, c'est pas rien. Si j'en suis arrivée à ça, c'est que le stress, c'est pas rien.
Exactement.
C'est comme si le fait que ce soit juste le stress, c'est rien. C'est pas organique, c'est pas physique.
Si c'est pas organique, c'est qu'il faut chercher au-delà. Et c'est vrai que là, donc je vous ai parlé d'une période où j'étais assez bien. Ensuite, les années ont passé, j'ai oublié cette histoire. Et je me suis reconfrontée à cette histoire, à la même histoire, à mes 30 ans. Sachant que j'avais beaucoup de choses qui commençaient à bouger dans ma vie. J'avais commencé à découvrir le coaching. Pareil, suite à des réponses qu'on ne m'avait pas données, on va dire que j'avais fait un burn-out. Et pareil, pas de réponse, je vois un psychiatre pour comprendre ce qui se passe Et là, tout de suite, on veut me donner des antidépresseurs. Mmh. Et là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et où je me suis dit, bah non, en fait, je ne suis pas malade, je ne suis pas dépressive. Par contre, je ne me sens pas bien et j'ai besoin d'avancer.
Mmh. Alors, Bletti, proposait... juste pour qu'on cadre cette réflexion-là, en fait. Pourquoi ?
Oui.
C'est bien de la nuancer parce que on a beaucoup de femmes et d'hommes aussi qui écoutent ce rendez-vous. Mmh. Et je ne veux pas qu'on stigmatise celles et ceux qui sont sous antidépresseurs.
Je suis d'accord.
Voilà.
Je suis d'accord.
Donc, on va y aller petit à petit. Qu'est-ce qui vous a fait peur quand on vous a dit, quand on a voulu vous prescrire des antidépresseurs, qu'est-ce qui vous a fait peur ? Pourquoi ? Est-ce que c'est fait, si on les avait appelés autre chose, antibiotiques, par exemple ?
Oui.
Alors, avec cet effet placebo du nom.
Avec cette nuance très importante que je vais mettre, pour moi, un antidépresseur, c'est un médicament qui se donne après avoir diagnostiqué une personne. Mmh. Et moi, en fait, la psy, elle m'avait vue deux fois. Donc pour moi, ce n'était pas assez pour pouvoir poser ce diagnostic-là. Et que je sentais que ce n'était pas mon besoin à l'époque parce que je sentais que voilà, j'étais quelqu'un de très actif, qui bougeait beaucoup, qui sortait beaucoup. Et j'avais besoin, par contre, d'avancer côté professionnel et je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'empêchait d'avancer. Et c'est pour cela que j'ai essayé moi-même d'aller creuser encore plus pour comprendre ce qui se passait. Donc toujours dans cette volonté de comprendre, de me comprendre et de me donner les outils pour avancer. Mmh. Et c'est là où j'ai découvert le coaching, tout à fait par hasard, à travers une amie en prenant un café. Et donc je lui parle de ma problématique. Et elle me dit, bah, tiens, moi j'ai ma tante qui accompagne une coach qui organise des sessions de coaching collectif entre femmes et je te conseille d'y aller. Donc, je dis OK, il n'y a pas de souci, je vais tester. Et là, ça a été la révélation. En fait, le fait d'être avec plusieurs femmes qui chacune ont des problématiques distinctes et qu'on puisse échanger et avancer ensemble, ça a été, je pense, un turning point dans ma vie. Que je remercierai jamais assez cette grande dame qui nous avait coachés pendant cette période. Et en fait, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. J'ai trouvé que j'avais besoin de petits éléments déclencheurs, de ramener finalement ma mission de vie à moi pour avoir cet élan et cette motivation pour avancer.
Ok. Alors, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que lors du premier épisode et deuxième épisode, vous étiez dans quoi exactement ? Vous étiez dans quel domaine d'activité ?
J'étais dans la transformation digitale, dans les systèmes d'information.
D'accord. Donc, très cérébral.
Très cérébral et surtout à l'époque où j'ai fait mon burn-out, j'étais dans le domaine des télécoms en France.
Ah. Et vous aimiez ce que vous
toute
faisiez
la polémique qui a été.
Pardon ?
J'ai dit à l'époque, c'était très connu que c'était un environnement assez stressant.
D'accord.
Les télécoms en France. Notamment, il y avait eu beaucoup de burn-out chez les opérateurs. Donc, ce n'était pas un cas isolé.
OK. OK. Et donc, à ce moment-là, en fait, juste pour faire le parallèle, avant, c'était la transformation des systèmes d'information. Là, c'est la transformation de l'humain.
Exactement.
Ouais. Mais donc, vous n'étiez pas épanouie dans ce que vous faisiez à l'époque ?
C'est très, comment dirais-je, si je pensais en fait être épanouie à l'époque, parce qu'il y avait deux éléments qui faisaient que je me sentais bien. Le premier élément, c'était les collègues, c'était l'environnement de travail, on était tous dans la même barque, j'ai des collègues qui sont aujourd'hui encore des amis. Donc, il y avait une très bonne ambiance qui faisait qu'on se soutenait entre nous. Donc, ça, c'est très important. Et la deuxième chose, c'est que comme je suis quelqu'un qui est assez curieux intellectuellement, j'adorais les nouveaux défis. Donc, j'aimais bien à chaque fois résoudre de nouveaux problèmes, trouver de nouvelles solutions. Sauf que ce qui a fait que ça n'allait plus, c'est que je donnais beaucoup plus que ce qu'il fallait et je ne comptais pas mes heures. Et comme j'avais soif de réussir à surmonter des défis, à trouver des solutions à des problèmes, ben je me dépensais beaucoup plus que ce qu'il me fallait.
Donc en fait, alors juste pour que justement aussi les personnes qui nous écoutent se retrouvent un petit peu dans votre récit, dans votre parcours, vous pensez que la situation que vous avez vécue, le burn-out que vous avez vécu, c'est parce que vous ne saviez pas doser en fait toute l'énergie à donner, ou parce que l'environnement était stressant, ou au fond, c'était pas ce qu'il vous fallait.
Alors, j'aime beaucoup cette question et ce qui va revenir vers ce qu'on a dit tout à l'heure, de poser un diagnostic. C'est un peu un mélange de tout ça. Et j'ai été diagnostiquée tardivement, TDAH et HPI.
D'accord.
Après mes 35 ans.
OK.
Et c'est pour ça que je reviens sur l'importance d'un bon diagnostic. Je trouve qu'à l'époque, j'étais tout simplement pas tombée sur la bonne personne qui ait su comprendre un peu toutes mes facettes et toutes les problématiques que je rencontrais. Et que, effectivement, quand on a posé ce diagnostic, c'était un soulagement.
OK.
C'était un vrai soulagement.
Parce qu'à
Et
l'époque, peut-être
je.
que même les spécialistes n'étaient pas outillés pour aller vraiment à la analyser, découvrir, comprendre et peut-être même anticiper quand ils reçoivent un patient avec toutes ces différences intellectuelles en fait et cérébrales.
Alors effectivement, c'est vrai que il y a une dizaine d'années, on n'en parlait pas assez. Il y a eu avec l'évolution naturelle en fait du monde professionnel, il y a eu beaucoup de burn-out qui ont commencé on a commencé à en parler de plus en plus. Le TDAH, c'est vrai que c'est quelque chose dont on parlait pas beaucoup. Aujourd'hui, on en parle énormément sur les réseaux sociaux, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, les médecins, les psychiatres, les psychologues, les coachs sont beaucoup plus alertes par rapport à ces sujets-là. Et on commence à creuser. Dès qu'on a un petit doute, on commence à creuser, à se demander, OK, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui expliquerait certaines problématiques ou certains comportements? Et surtout chez les femmes. Parce que chez les femmes, ça ne se voit pas, on compense, surtout quand on a d'autres formes de compétences ou d'intelligence, en fait, on arrive à camoufler, entre guillemets, et donc ça ne se voit pas. Tandis que chez un garçon, ben, dès qu'il va être en train de bouger un peu plus que les autres, à ne pas se concentrer, on va se dire, ah ben, tiens, peut-être qu'on va le faire diagnostiquer. Chez une fille, on ne va pas le faire. Et c'est, je pense, c'est quelque chose qui va falloir voilà, faire attention à ça. Si on voit que une jeune fille voilà, elle est un peu tête dans les nuages, comme on dit, ou qu'elle n'arrive pas à se poser, à se concentrer, ben se poser ces questions-là, c'est important et ça peut aider à prévenir certaines choses, comme dans mon cas, un burn-out assez jeune.
Assez jeune, exactement, à 30 ans, en fait, on va dire premier épisode autour de 25 ans, deuxième épisode quelques années après. Maintenant, le changement de cap, justement, quand on est déjà installé dans une fonction, dans une vie professionnelle, comment on passe d'une vie à une autre, d'une casquette à une autre, finalement, d'une expertise à une autre, parce qu'aujourd'hui, vous êtes éloigné des systèmes d'information.
Alors, je ne me suis jamais vraiment éloignée des systèmes d'information parce que j'en fais jusqu'à aujourd'hui en tant que consultante. Mais j'ai essayé de trouver le lien entre ce que j'avais appris. Donc, c'est un bagage, c'est important, une expérience, une expertise que j'ai développée. Et une nouvelle expertise qui a commencé à se dessiner au fur et à mesure des années, qui est le coaching. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis posé cette question, mais en fait, je n'acceptais pas le mot transition de carrière. Et c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, j'accompagne des femmes qui sont en transition. Et je me rappelle, j'ai un coach mentor qui m'a dit, mais Salma, tu n'es pas obligée de mettre à la poubelle toute ton expérience. Il faut juste trouver ce lien et continuer à alimenter ce que tu fais, nourri de tes différentes casquettes. Et c'est ce qui m'a poussée en fait à créer ma structure qui s'appelle Well Conseil, où on trouve un peu du well-being et du conseil.
Mais alors, je voudrais qu'on s'arrête sur un moment qui est charnière quand même. C'est entre le moment où vous êtes encore dans le modèle, l'ancien modèle,
Classique.
voilà, classique, et l'arrivée du nouveau modèle. Entre-temps, il y a des formations, il y a de la
Ah oui.
réflexion, il y a de l'accompagnement, etc. Est-ce que pendant ce temps, vous continuez à travailler ou bien vous avez vraiment fait un break? Même sans véritablement de perspective, et bien sûr tout ce qui va avec financièrement, etc.
Oui, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, c'est pas un chemin simple. Aujourd'hui, on en parle comme si c'était naturel, ça s'est fait naturellement, mais effectivement, il y a eu beaucoup de moments de doute, beaucoup de moments où ça n'allait pas, des questionnements. Et puis, effectivement, j'ai fait un break en 2000. J'ai fait un break d'un an. J'ai fait un break d'un an. Alors la toute première fois, j'ai fait un break d'un an pour essayer de me questionner sur ce que j'avais envie de faire, parce que voilà, c'était la première fois que ça m'arrivait. J'étais toujours taguée de la fille brillante dans la famille, dans ma fratrie, etc. Et accepter de faire un break, c'était un peu très difficile à vivre, que ce soit émotionnellement, financièrement, etc. Mais je m'étais donné une année pour réfléchir, me soigner, et c'est là où j'ai découvert vraiment une multitude de choses. J'ai découvert la médecine chinoise, j'ai découvert la sophrologie. J'ai même essayé les fleurs de Bac. J'ai fait beaucoup de coaching. J'ai fait des coachings de groupe. Je me suis aussi fait coacher individuellement. Et petit à petit, c'est vrai que l'anecdote, c'était que la première année, ce qui a fait que j'ai réussi à m'en sortir, entre guillemets, et à me remettre en selle pour travailler, ça a été un accompagnement, un coaching d'une amie qui avait une difficulté pour passer une thèse. Et c'est ce qui m'a vraiment mis sur pied. C'est-à-dire au moment où elle avait eu sa thèse, ça y est, j'étais guérie.
Parce que vous
Et ça,
l'aviez accompagnée,
c'était
c'est ça? Et
exactement.
que vous, c'est bon, vous étiez, vous pouviez en fait finalement pleinement démarrer cette nouvelle voie.
En fait, ça m'a permis de, je pense avec le recul, ce que je pense que ça m'a permis de faire, de me reprouver que j'étais capable de faire des choses, que j'étais capable d'accompagner, qu'il y avait cette satisfaction aussi. Et ça m'a remis dans une dynamique où j'étais en mouvement. Mais comme la vie n'est pas facile, non, je n'ai pas directement travaillé en tant que coach. À ce moment-là, j'ai décidé de me mettre en freelance et de chercher des missions qui me correspondaient en termes d'environnement, en termes d'apprentissage, d'ambition. Et c'est vrai que là, je suis tombée sur des entreprises qui m'ont recrutée en tant que freelance et où je me sentais plus épanouie parce que je savais que j'étais là pour une mission, pour accomplir quelque chose. Et dès que c'était fini, ben, je passais à une autre mission. Et ça me nourrissait parce que j'apportais à chaque fois un regard extérieur, une expérience, et puis à la fin, bah, j'avais cette satisfaction d'avoir contribué à changer quelque chose. Et c'est là où j'ai compris que j'étais quelqu'un qui était fait pour accomplir des missions et pas pour rester dans un poste éternellement.
Aujourd'hui, comment ça va ?
Aujourd'hui, ça va très très bien. On est passé d'une étape de recherche, de quête de soi, à une étape d'acceptation et d'épanouissement. Et c'est là où c'est important de savoir où on va pour mettre à chaque fois des briques. Et le résultat, en fait, on ne le maîtrise pas. Le résultat, c'est biadillah, c'est entre les mains de Dieu. Mais nous, on avance. Et c'est quelque chose qui revient toujours dans mon parcours, c'est le fait de toujours vouloir avancer.
Eh bien, on va dire que c'est un super mot de la fin, Salma Al-Harishi.
Merci.
Merci beaucoup d'avoir été ma femme d'aujourd'hui, Salma. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.